Sileki. Cinquième jour du deuxième mois de l'an 2325. Cité de Mut. Sileki s'est présenté à moi à l'aube de Mut. J'étais en train d'huiler les dronilisateurs du soja dans l'une des clairières sud. Je me suis retournée et je l'ai vue. Elle se tenait debout à trois pas de moi, le visage figé et les yeux bouffis. L'arcade gauche portait un gros coquard. Je lui ai fait signe de venir et je lui ai montré un beau semis de soja où les pousses commençaient à déployer leurs doigts pointus. Je lui ai fait remarquer les minois chiffonnés d'un bouquet de tournesol prêt à éclore. Tout autour de nous était en bouton, à la fois fragile et gorgé de vie, se balançant doucement dans un des petits vents de l'Oris. J'ai incité Sileki à s'approcher. « Viens, viens toucher, ce n'est pas interdit. Il suffit de le faire avec précaution. » Elle a tendu une main peureuse. Je l'ai amenée à caresser la chair des plantes, à apprécier sa douceur, à admirer la nacre jaune pâle du soja où infuse déjà la verdeur de la chlorophylle, le velours recouvrant l'involucre du tournesol qui s'entr'ouvre sur un or éclatant. Elle a obéi sans mot dire, avec des gestes d'une délicatesse louable. J'ai vu ses traits se détendre peu à peu. Je lui ai demandé « Est-ce que ça va mieux ?» Elle m'a regardé avec une lueur d'espoir.
« J'attends maman, mais elle ne revient pas. Tu crois qu'elle reviendra ?»
Je me suis fait la réflexion que les rites funéraires n'avaient pas eu sur la psyché de Sileki l'effet attendu. Matérialiser une rupture entre l'avant et l'après, la vie et la mort, la présence et l'absence. Ton père t'a expliqué qu'elle était partie dormir pour toujours.
Il m'a dit qu'elle était partie dormir avec grand-mère, et ensuite, il m'a dit de le laisser tranquille.
Elle a froncé son petit nez.
Mais grand-mère dort depuis si longtemps.
Je lui ai demandé d'où venait l'ecchymose qu'elle portait à l'œil gauche. Pour toute réponse, elle a recommencé à pleurer sans bruit. Je l'ai prise dans mes bras pour l'éloigner des semis. J'ai bien reçu la réponse de la commanderie relative au mini-cola. J'ai noté la décision de la commanderie. Avant toute intervention contre la mini-cola, elle souhaite obtenir l'accord des autres cités sous-lunaires. Ce type d'accord intercité, on le sait, prend du temps. Quand il aboutit. Et le temps face à la mini-cola joue contre nous. J'ai aussi bien noté que je ne dois plus mentionner ce sujet. La commanderie ne souhaite plus l'aborder maintenant que sa décision est prise. Je me contenterai d'insister sur la nécessité absolue de remplacer la dalle 237 du dôme, dont la fissure atteint désormais 40 cm. Je suis allée, à la demande de Zante, le zoologue, faire avec Sileki le tour des vivariums. Zante veille avec un soin particulier sur ses rats taupiers. Je ne conteste pas à leur espèce une grande ingéniosité, et la beauté de leur pelage est remarquable, mais leur appétit est tout aussi étonnant. C'est simple. Ils n'arrêtent pas une seconde de manger. Je ne peux pas m'empêcher d'être circonspecte en leur présence. J'imagine ce qu'un seul couple de ces dévoreurs lâchés sans surveillance pourrait infliger à mes plantations. Ou plutôt, je ne l'imagine pas. Je sais qu'ils ne laisseraient rien derrière eux. Le métier de jardinier terrestre devait être un combat de tous les instants. Zante a paru déçu que je ne lui donne pas de conseils concernant la végétalisation de leur enclos. Je lui ai répondu que je ne pouvais rien entreprendre face à un désherbant, fût-il animal. Zante pratique déjà la culture sous grillage. Il a planté des thuyas et un beau champ d'ail. Je ne vois pas quoi faire d'autre. J'ai demandé son avis à Sileki. Que penses-tu de ces rats aux pieds?
Ils mangent tout le temps?
Oui.
Mais alors, ils font caca tout le temps?
Peut-être pas tout le temps.
Mais alors, il y a un moment où ils explosent?
J'étais embarrassée pour répondre, comme souvent avec Sileki. Mais Sileki s'est désintéressée du problème et nous sommes allés vers les autres enclos. Nous avons rencontré de très beaux renards et quelques taupes qui sont charmantes avec leurs pattes pataudes et leur fourrure en velours. Zante leur joue des opéras olfactifs. Elles ont une préférence pour les notes épicées qu'aucun avantage évolutif ne justifie. Zante nous a aussi présenté à des lapins de Thuringe. Ceux-ci remuent le nez en fixant leur interlocuteur d'un air sérieux, puis se détournent en agitant leurs longues oreilles et ne laissent plus voir qu'un bout de queue qui sautille. J'ai suivi leur manège aussi longtemps que je l'ai pu. Leurs rapports sociaux m'ont paru empreints de politesse, mais distants. D'expérience, je sais que ce n'est pas toujours le cas. Certains quartiers lapins évoluent dans une ambiance plus joueuse, d'autres sont davantage dans la compétition. Cependant, les lapins se montrent en général bienveillants. Les humains de la cité de Mut demandent régulièrement que l'espèce soit classée comme animal libre, et je les comprends. Les lapins sont très charismatiques. J'ai d'ailleurs eu du mal à décoller le nez de Siléki de la vitre de leur enclos. Mais Zant s'y refuse absolument et je le soutiens. Des rongeurs, ce n'est pas sérieux. Zant est toujours confronté aux mêmes requêtes insensées, au premier plan desquelles figure la création du fameux statut d'animal de compagnie. Mais il est trop délicat de confier aux soins des humains des espèces différentes de la leur. Ils les comprennent mal, s'y projettent trop ou pas assez et, finalement, tout le monde est malheureux. Entretenir une population d'animaux libres vacant à ses occupations dans les espaces verts de Mut ou des fermes est une solution plus fonctionnelle. Je sais que les citadins sous-lunaires rêvent d'avoir un animal à eux. Mais ni Zant ni moi ne rêvons. Tout ce que nous avons, ce sont les faits. Et les faits ne plaident pas en faveur du statut d'animal de compagnie. Nous sommes passés rapidement dans les pâturages. Loris s'occupe très bien de leur végétalisation. La stèle dressée dans l'ancien enclos des chèvres manavrée. C'est encore une espèce qui disparaît. Nous avons aussi visité les aquariums d'eau douce, car Zant m'a demandé d'apporter mon expertise sur la faune et la flore aquatique. Tout y prospère magnifiquement. Mollusques, crustacés et batraciens, tortues et serpents, la mousse des fées aussi. J'ai conseillé d'y veiller. À tout prendre, il vaut mieux favoriser la peste d'eau qui est mieux oxygénante. Nous avons vu les crocodiles de Zant. On croirait vraiment deux sculptures taillées l'une sur l'autre dans un seul bloc de marbre jaune. Siléki les a longuement admirées.
Ils dorment ?
Oui, ils dorment.
Ils vont se réveiller un jour ?
Bien sûr. Cette vision l'a laissée songeuse. Je suis bien en peine de savoir quelle pensée s'élabore dans sa tête. J'ai dû l'abandonner un moment pour plonger dans l'aquarium principal. J'ai dépassé le batillage afin d'aller vérifier l'état des prairies de Naïade. Elles sont épaisses et étendues. C'est vraiment du bon travail. Je me suis fait la réflexion que ces lieux baignés dans une atmosphère trouble et tiède, vibrante de bourdonnements, doivent être proches de ce qu'a pu être la terre à son apogée. L'odeur de vase et de lys d'eau parvient même à couvrir celle de la lune. Ce n'est pas une mince performance. Au grand terrarium, Siléki et moi avons passé un assez long moment à regarder les serpents glisser sur les feuilles mortes. Les citadins en visite se sont montrés aussi fascinés que nous par les reptiles, mais plus anxieux. Je comprends leurs fréquents mouvements de recul. Les vitres de dur à glace sont épaisses, mais elles sont transparentes. L'instinct de fuite ne se commande pas. En revanche, je m'explique mal leurs expressions de dégoût. Les serpents sont gracieux, craintifs et faciles à apprivoiser, même s'ils ne sont pas volontaires pour un apprentissage poussé. J'ai parlé à Siléki de Cordat, un crotal diamantin qui m'a tenu compagnie dans les débuts de la ferme et qui n'a pas survécu à la deuxième décompression explosive. Cordat était sourd, mais il aimait quand même la musique. Il dansait au rythme des compresseurs de la ferme. Les chants de sa cascabelle, tu sais, la petite crécelle au bout de sa queue, et les lentes torsions de son corps blond sur le sol noir étaient doublement hypnotiques.
Il aimait quoi d'autre, ton serpent ?
Les marais salants. J'avais des marais salants à la ferme à l'époque. Je repérais Cordat au miroitement des cristaux de sel sur ses écailles. En revanche, il détestait l'altitude.
Comment tu le sais ?
Comme sa gourmandise était encore plus grande que sa timidité, il essayait de chasser les oiseaux. J'ai dû aller le cueillir de nombreuses fois à 5 mètres de haut, dans les arbres d'où il pendait piteusement en poussant des sifflements plaintifs. Siléki a souri, ce qui me semble un signe de bon moral. Elle et moi avons fait un bref passage dans les fermes de grillons. Le bruit est à tomber. Puis nous sommes allés au bureau pédagogique de la commanderie de Mut pour retirer un dossier de candidature à un poste d'apprentie horticultrice. Siléki s'est littéralement endormie sous le guichet. Je l'ai ramenée chez son père, qui ne s'est pas montré. 10e jour du 2e mois de l'an 2325, cité de Mut. Je suis allée chercher Sileki plusieurs fois. Herboriser ensemble allège et son chagrin et ma tâche. C'est une relation symbiotique, si l'on veut. Une symbiose temporaire. Je l'attends à la sortie de l'école et je l'emmène. En ce début de printemps de mute, nous plantons en poquet des courgettes blanches et des pâtissons. Sileki est d'une grande habileté avec les plantes et les insectes, surtout quand il s'agit de disputer des graines aux fourmis sans blesser ces dernières. Elle semble avoir dompté la bête douloureuse du deuil qui l'habite. Mais elle garde une raideur dans le torse et une fixité dans le visage qui me prouve que l'exercice est en cours et loin d'être facile. J'espère, du moins, que ce n'est que ça. J'ai rarement rencontré une enfant aussi silencieuse que Sileki. Elle ne commence jamais une conversation de son propre chef. Elle préfère observer. Elle n'est pas non plus particulièrement affectueuse. Or, pendant les crises de larmes causées par la mort de sa mère, elle ne cherche pas de rapprochement avec moi. Elle peut rester calme et muette très longtemps, plus longtemps en tout cas que les autres enfants du même âge. Ceux-ci, en retour, ne paraissent pas l'apprécier. Les tempéraments sauvages inquiètent l'âme des citadins, toujours gourmandes de grégarité. Chez des adultes comme Evelang, cet isolement est, sinon un choix, du moins l'aboutissement d'une série de décisions. Mais chez une enfant, c'est sinistre. Son père ne se montre plus. J'imagine que la tristesse le replie sur lui-même comme une feuille sous la gelée. Cependant, ça fait trop de deux absences au chevet d'une orpheline. J'ai hâte de pouvoir prendre officiellement Sileki comme apprentie horticultrice. Nous aurons davantage de créneaux de travail communs à la cité de Mute et, de temps en temps, à la ferme Lalande. Ça l'occupera. Et ça lui donnera un horizon fleuri vers lequel avancer. Chaque fois que Sileki et moi nous quittons, j'interroge ses yeux. Pour le moment, je n'y ai pas vu l'ombre mate qui précède la fièvre aspic. Son cocard est en bonne voie de guérison. Je n'ai pas réussi à savoir d'où il venait. À l'aube de Mute, j'étais aux abords du quartier français et je finissais de composer sur le bord d'un talus une soupe claire, un semis aéré de bleuets pour séduire les papillons. J'ai entendu le chant du coq. Je me suis fait la réflexion que, sur le plan des animaux totems, le chant du merle brésilien est quand même plus mélodieux. Je suis allée saluer dans le quartier français une dame qui a demandé à me voir. Madame Veuve N. Toto. Menue et polie, Madame Veuve N. Toto a tenu à me confier un livre qu'elle nomme « Keepsake ». Elle le tient de famille. Ça m'a intriguée. Le terme « keepsake » est anglais et Madame Veuve N. Toto est française. Mais il est vrai que ces deux groupes ethniques se sont beaucoup côtoyés sur Terre, culturellement et militairement. En ouvrant le keepsake, intitulé « Petit Paul » et daté du début du XXe siècle, j'ai trouvé de nombreuses plantes séchées, collées sur les pages en papier d'arbre. Madame Veuve N. Toto espère que je réussirai à recueillir quelques graines et à les faire germer. Je n'ai pas voulu la décevoir, mais je crois que les graines, si graines il y a, sont mortes depuis longtemps. J'ai remercié Madame Veuve N. Toto et j'ai pris le keepsake qui sent bon la fleur défunte. Je suis ensuite passée chercher Sileki. Je lui ai demandé rituellement comment elle allait.
« Mmh. »
m'a-t-elle répondu. « Que signifie « mmh » ?»«
Ça veut dire « mmh ». »«
Et comment va ton père ?»«
Oh, papa, il pleure, il dort, il pleure, il dort. Parfois il me crie dessus, mais il se réveille, c'est toujours ça. »
Sileki a regardé au loin, comme souvent quand elle pose une de ces questions philosophiques auxquelles je ne sais pas répondre.
« Tu crois qu'il va s'endormir pour toujours, lui aussi ?»«
Je ne sais pas. »«
Tu sais quoi, alors ?»«
Planter des pâtissons. » Elle a soupiré.
« C'est mieux que rien. »
J'ai remarqué sur sa main une petite ecchymose bleue et noire de forme rectangulaire. J'ai voulu savoir d'où elle venait. Je n'ai obtenu qu'un
« mm-hmm »
supplémentaire. À la demande de Sileki, nous sommes allés au cimetière vertical. Les citadins sous-lunaires accordent une grande importance à la végétalisation de leurs défunts. Et les urnes accrochées à la roche disparaissent derrière d'immenses rideaux de sensons. Je crois qu'il reste quelque chose de l'interdiction première. Pour ménager l'espace viabilisé, la commanderie de Mut a longtemps interdit aux citadins de conserver à Mut les restes de leurs disparus, qu'ils soient en urne, en suaire ou en cercueil. Tout le monde devait finir à la surface, convoyé par les bons soins de la Celestis Inc. C'est une entreprise spécialisée dans les trajets à variation de pression, qui se plaint encore que son nom soit devenu synonyme de funérailles. Mais la plupart des citadins sous lunaire ont mal vécu de devoir se séparer de ce qu'ils avaient de plus précieux et de le voir étiqueté « fret biologique ». Ils ont pris l'habitude de faire incinérer leurs défunts et de voler les urnes funéraires pour les dissimuler près de chez eux, derrière des plantes. La commanderie de Mut a commencé par distribuer des amendes, puis elle a laissé faire et, finalement, elle a validé l'initiative. Après tout, une urne qui reste à Mut, c'est une plante bien entretenue. Il est vrai que la fièvre aspic a multiplié les urnes. Mais elle a aussi libéré de l'espace dans la cité. Je suppose que tout ça s'équilibre. Le cimetière, comme toutes les constructions sous-lunaires et lunaires, profite des compétences architecturales d'un peuple habitué à bâtir sous une gravité 6 fois supérieure celle de la Terre. Mais, alors que les lieux d'habitation pâtissent des contraintes de sécurité, ce sont des caissons étanches, le cimetière, lui, peut se permettre une complète liberté minérale. Flèches et minarets, clochers garnis de vitraux et pagodes couronnées d'étoiles s'étagent depuis le bas jusqu'en haut de la paroi du tube. Les alouettes s'y perchent nombreuses et pépillent en arrosant le sol lointain de fientes. Elles ne pratiquent pas un papotage plus passionnant que d'autres espèces. Elles échangent sans fin des considérations sur le climat et leur humeur du moment. Mais elles y mettent une harmonieuse énergie. Les alouettes du cimetière vertical sont arrivées ici en neuf. Elles n'ont pas bénéficié des apprentissages d'une nuée. C'est, d'après Zant, le zoologue, la raison pour laquelle leurs chants sont si atypiques. A priori, ces alouettes se sont inspirées des merles avant de développer leur propre partition. Je distingue aussi, dans leur trille, le rythme de slogans publicitaires, car les alouettes sont de bonnes imitatrices. Ça pose d'ailleurs des problèmes aux pipites du cimetière. Les alouettes imitent si bien leurs cris d'alerte que ces malheureux pipites lâchent leur repas pour aller se cacher. Les alouettes en profitent, bien sûr. De sorte que Zant peste contre ces alouettes trop grasses et ces pipites trop maigres. Au cimetière vertical, Sileki a ramassé 2 perles de Senson. Nous les avons plantées chez elle, près de sa natte. J'étais assez dubitative. Tu es sûre? C'est sombre ici.
J'en suis sûre,
a-t-elle répondu en tassant à 2 mains l'humus au-dessus des graines.
Maman dort près de ces graines, elle a sûrement enfermé des rêves dedans.
Par un tour de son cerveau enfantin, Sileki est convaincue que l'esprit de sa mère a trouvé refuge dans la cascade végétale qui abrite son dernier sommeil au cimetière vertical. Tandis que Sileki tassait, j'ai à nouveau noté chez elle une certaine raideur musculaire que j'ai jugée inquiétante. Mais ses yeux sont toujours limpides. J'ai aussi remarqué une autre ecchymose, derrière son oreille droite cette fois. Un gros point violet et jaune. A-t-elle attrapé celle-là à la maison? À l'école? Je me permets de faire ici un signalement, puisque ce n'est pas la première fois que ça arrive. J'ai fait des prélèvements sur les plantes séchées du keepsake de Madame Veuve Ntoto, celui appelé Petit Paul. J'en ai profité pour regarder les clichés qu'il contient et pour lire les légendes. Il s'agit de l'histoire, d'abord plutôt gaie, d'un garçon nommé Paul. La famille de Paul est de type nucléaire étendu, assez banale à cette époque-là et sous ces latitudes-là. Une mère et un père, un chat et un chien domestique, 2 grands-parents, peut-être un oncle et une tante. Petit Paul est remuant et chaleureux. Il fait des bêtises d'enfant qui sont soigneusement notées, comme ses goûts culinaires et ses premiers mots. Les fleurs qu'il cueille sont, elles aussi, méticuleusement conservées. Le keepsake s'achève de façon triste, par une succession d'ordonnances. Cette époque-là, le début du XXe siècle terrestre, était suspendu entre l'ancien et le moderne. Les médecins prescrivaient à la fois des remèdes efficaces comme le quinquina, des potions inopérantes dites purgatives ou émollientes, voire de franches maltraitances comme les cataplasmes à la moutarde, l'arsenic ou la diète. Rien de tout ça n'était utile. La dernière page du keepsake porte, épinglée, le faire-part de décès de Petit Paul, et une ligne de grosses larmes tracée à l'encre noire. D'après les ordonnances, j'ai cru comprendre que petit Paul était mort d'une pneumonie. J'ai envoyé les prélèvements végétaux du keepsake à Loris le jardinier. Quand il m'aura assuré que toutes ses graines sont mortes, je rendrai son keepsake à Madame Veuve Ntoto. Les citadins sont très attachés à leurs souvenirs. 14e jour du 2e mois de l'an 2325, cité de Mute. À la demande de la commanderie de Mute, je suis allée avec Sileki vérifier l'état végétal du Musante, le musée des sensations terrestres que nous devons à Madame Gonzerster. Hélas, cette grande artiste a, en termes de sensibilité agricole, le sublime assez éloigné de la matière, surtout depuis son décès. Dernièrement, elle a entièrement refait la scénographie du musée. Du moins, la sauvegarde de ses schémas mentaux l'a fait. J'ai trouvé la visite malaisante. Sileki l'a trouvée... L'exposition commence par Jungle Fever, une arche de brume moite de 10 mètres de haut chargée d'une odeur de jungle. Un mélange de Roku et d'EVA. C'est mal rendre justice à la biodiversité des forêts tropicales humides, et les froissements de branches de la bande sonore évoquent plutôt le chêne à porc champêtre. Mais j'imagine que cette poche de chaleur mouillée semble délicieuse aux citadins sous-lunaires, qui sont toujours frileux et assoiffés. En tout cas, Sileki a apprécié, même si elle n'y a rien compris. Je lui ai expliqué le concept de jungle, mais elle n'y croit tout simplement pas. Je me souviens avoir rencontré Madame Gonzerster pendant une de mes visites. Elle regrettait bruyamment de ne pas pouvoir exposer à la surface. Alors on a conçu pour elle la bulle de la galerie Tate Moon. Tate Moon navigue désormais de mer en mer, poussée par ses voiles solaires. À cette heure-ci, elle doit être du côté des marais du sommeil, glissant éternellement au ras du régolithe en poussant devant elle sa proue ornée de serviettes éponges roses. Les artistes ont des idées que les autres n'ont pas. Exposée à tous les vents solaires, la Tate Moon n'a pas beaucoup de visiteurs. Mais sa seule existence réjouit les citadins sous-lunaires. Pour eux, la Tate Moon représente un poste avancé de l'imaginaire humain face à la dure réalité planétaire. Je me souviens de Madame Gonzerster s'extasiant devant le blanc de la lune, le bleu de la terre, l'obscurité du ciel, la limpidité du vide et les comparant aux tempêtes de poussière martienne. Elle refusait absolument d'aller exposer sur Mars. Ce simple fait avait créé, d'elle à moi, une certaine entente. Moi non plus, je n'ai jamais eu envie d'aller sur Mars. Cette planète est intégralement couverte de perchlorate. Et il lui manque la couche interne de silicate de fer et de magnésium de structure pérovskite qui créerait, par convection, l'indispensable bouclier électromagnétique. Je m'aperçois que je me suis laissé aller à utiliser un vocabulaire technique. Mon explication va à l'encontre des recommandations qu'on m'a faites. Je reprends. Mars n'a, pas plus que la Lune, le manteau électromagnétique qui protégeait la vie terrestre contre les vents solaires. En plus, elle est couverte de désherbants. Pourquoi voyager plus loin pour trouver moins bien? Madame Gonzerster se disait pourtant déçue par la Lune. Elle jugeait les sables trop gris, le ciel terriblement noir et les étoiles brillantes comme de l'os. Elle regrettait leur scintillement, elle décrivait la vibration de la voie lactée dans l'air du soir. Elle était restée entièrement terrestre. Elle l'est toujours. En renversant la tête en arrière, j'ai vu, incrusté dans le plafond du Musante, un paraffe d'étoiles qui scintillait. Un long voile bleu phosphorescent l'a traversé en dansant. Le guide audio m'a parlé à l'oreille d'aurore boréale. À cette vue, Sileki a rentré la tête dans ses épaules, en vraie fille de la Lune qu'elle est. Madame Gonzerster n'a probablement pas conscience du fait que, sur la Lune, voir les étoiles scintiller et de grands nuages de gaz dérivés est mauvais signe. Très mauvais signe. Continuant notre parcours dans le Musante, Sileki et moi avons abordé Averse et Ondée, une épaisse couverture nuageuse qui nous a aspergés d'un crachin glacé au parfum de bruyère, puis de larges gouttes chaudes fleurant la sève et la boue. Une odeur de mousson, d'après le guide. Enfin, nous avons senti les petites pics acides d'une averse urbaine. Elle mélangeait aux senteurs du platane celle du goudron et de la crotte de chien. Sileki a jugé le concept de pluie plutôt malodorant. J'ai fait une halte sur un balcon de verre pour sécher Sileki. Cette scène est baptisée « Au bord de l'Atlantique » et le garde-corps est couvert de serviettes éponges roses. Chaque artiste a ses obsessions. Il y a là une forte odeur de sel, accompagnée d'un bruit de vagues. Le compositeur sonore est Pieti Tsiet, un terrien dont je me rappelle parfaitement. Il était très désagréable avec le personnel local. Il faut dire que Madame Gonzerster le traitait à la fourche. « Taisez-vous, Pieti, vous êtes aussi emmerdant que votre musique !» Tout en frottant les cheveux mouillés de Sileki, je lui ai demandé « Entends-tu ce bruit ?»«
C'est quoi ?»
La mer.
« C'est quoi ?»
C'est une étendue d'eau si profonde qu'il faudrait empiler bien des fermes l'une sur l'autre pour monter du fond à la surface, et si vaste qu'il faudrait nager toute une journée pour aller d'une rive à l'autre.
« Pourquoi tu me racontes des sottises ?»
Sileki a eu l'air fâché. Il est possible qu'elle croie que je me moque d'elle avec mes histoires d'eau tombant ou débordant de toutes parts. Le guide nous a annoncé un passage dense intitulé « Transmétropolitain Express ». J'ai recommandé à Sileki de fermer la bouche. L'obscurité est devenue complète, la pression élevée et le bruit ambiant s'est réduit à une vibration sourde. J'en suis sortie oppressée. Je sais que Madame Gonzerster cherche à lier des sons à des sensations, des pensées à des textures ou à des éléments fugaces comme une impression de vitesse. Mais il me semble que ce coup-là s'est raté. Là où je m'attendais à quelque chose d'aussi poétique que son célèbre « variation de gravité sur un quai de gare », j'ai eu l'impression d'être ensevelie dans une coulée de lave. Sileki, pour sa part, a dit des gros mots que je ne retranscrirai pas. Nous sommes arrivés dans le hall inférieur. Battant de toutes leurs pages et zigzagant follement, des centaines de vieux livres en papier peuplent le volume gigantesque du hall d'un vol continu. L'air est ensoleillé, traversé de bruissements d'ailes et de mouvantes écailles d'ombre blonde, comme sous un gigantesque feuillage. Il y a même un bosquet d'arbres en dictionnaire qui fredonne des formules chimiques. D'après le guide, il paraît que les livres en mouvement dans un si vaste lieu donnent une idée du vide extérieur hanté par l'esprit. Si gracieuse qu'elle soit, cette instrumentalisation du vivant m'a paru dérangeante. Les anciens livres étaient faits de pattes de bois. Chacun d'eux est un arbre abattu, débité, râpé, fondu en pulpe, et tant pis pour les oiseaux qui y nichaient. Leur faire jouer le rôle de forêt emplie de pépiments me semble d'assez mauvais goût. Madame Gonzerster est décidément une urbaine. Les réalités de la ruralité ne l'ont jamais effleurée. Cependant, je dois reconnaître que malgré son double attachement urbain et terrestre, Madame Gonzerster a accepté sans hésiter que ses cendres soient répandues dans les sables de la Lune.
Mourir, c'est pourrir sous terre. Mourir dans l'espace, ce n'est pas vraiment mourir, a-t-elle déclaré.
Les artistes ont des rapports compliqués avec leur finitude. J'ai jeté un coup d'œil au parterre d'orchidées qui termine la visite. Elles sont bien naturalisées. Je me demande vraiment pourquoi on m'a demandé de venir. À la ferme, la température commencera à remonter bientôt. Le printemps s'annonce. Le prochain jour solaire aussi, et je n'ai pas de nouvelles de mes alertes de sécurité concernant la fissure du dôme, celle de la côte 237, qui n'a pas bougé, m'a annoncé Trim. De même, le signalement que j'ai fait concernant d'éventuelles violences scolaires ou familiales commises contre Sileki n'a rencontré aucun écho. Et le non-lieu de Trim n'avance pas davantage. Aujourd'hui, Sileki a fait un geste spontané dans ma direction, un geste de la main droite. Laquelle main porte une ecchymose de plus, je tiens à le signaler une fois encore. Elle ressemble à ces coups de baguette que les tuteurs, parents ou enseignants ne sont plus censés donner aux enfants. Sileki et moi avions taillé ensemble les cotylédons d'une serre de melon et je venais de la ramener chez son père, dont le rire de clochette a disparu sous des épaisseurs de douleur. Les ayant quittés, je me suis retournée pour vérifier que la petite ne s'enfuyait pas une fois de plus je ne sais où. Je l'ai aperçue toute seule derrière la barrière. Elle me regardait fixement, perdue dans sa grande houppelande, et à ma grande surprise, elle a levé la main une fois, comme une araignée d'eau ébrouant une patte. Puis elle l'a rabaissée et n'a plus bougé. Je suis satisfaite de ce signe. Il m'a rappelé le mouvement du sépale s'écartant de la corolle pour laisser la fleur s'épanouir. Ou cette abeille que j'avais trouvée dans un sas de sécurité, inerte et glacée. Je l'avais vue frémir, puis elle avait brusquement déplié une patte avant d'étirer ses ailes de mica au creux de ma paume. 16e jour du 2e mois de l'an 2325. Cité de Mut. Alerte de sécurité. La faille d'étanchéité 237 s'est à nouveau étendue lors de l'aube solaire jusqu'à atteindre 56 cm. Je rappelle les besoins urgents de réfection. Il me paraîtrait dommageable de laisser le dôme se fissurer jusqu'à son point de non-retour. J'ai fait poser par mes bottes une membrane de confinement sur la dalle 237, à même la surface fissurée, mais ça ne suffira pas à sauver la faune et la flore de la ferme si une décompression explosive survient. Ça ne suffira pas non plus à sauver d'éventuels visiteurs de Mut qui seraient à la ferme à ce moment-là. À ce moment-là, rien ne suffira. Sileki est toujours assez raide, mais ses yeux sont limpides. Je n'ai pas vu de bleu supplémentaire. Nous avons fait toutes les deux une promenade dans les vignobles du sud de Mut. Les citadins sous-lunaires apportent à leurs vignes un soin étonnant. Il y a plus de 100 cépages différents qui prospèrent sur les coteaux de l'Est. Là, le plan climat ne pose aucun problème, car il est systématiquement contourné. Les récoltants pralinent, épampres et vendangent avec un enthousiasme que rien n'abat, même pas la verticalité de leur plantation. Car le nom « coteau » est usurpé. Ce sont des parois quasi abruptes, garnies de gouttières auxquelles les viticulteurs accèdent par un réseau d'échelles. Quand ils ont fini de s'en occuper, ils restent là, se balançant devant les ceps, flattant de la main les grappillons au lieu de les cueillir, malgré mes conseils. Parfois, à voix basse, ils évoquent entre eux d'antiques cauchemars. Mildiou et oïdium. Ces maladies oubliées troublent leur sommeil. J'essayais autrefois de les rassurer, mais aujourd'hui, le lien symbolique avec la fièvre aspique m'apparaît trop évident. Je les laisse dire. Sileki et moi nous sommes promenés parmi les muscats et les grenaches. Les grappes sont encore vertes et poudrées, fraîches au creux de la main. Quand j'écarte les feuilles qui les protègent, la lumière se dilue dans la chair transparente des grains et j'ai l'impression de tenir une poignée de perles d'eau. J'ai demandé à Sileki si elle aimait le jus de raisin.
Oui, j'aime bien. Pourquoi on en fait du sale alcool?
Pour une fois, j'ai trouvé une réponse adaptée. À quoi aimes-tu jouer? Elle a réfléchi longuement, les sourcils froncés.
Aux marionnettes?
Eh bien, l'alcool, c'est les marionnettes des adultes. Ça les passionne. C'est comme ça.
Je croyais que c'était le sexe.
Sa réponse m'a rendue muette. J'ai préféré laisser les pédagogues se débrouiller de ce sujet-là. Les yeux de Sileki sont toujours transparents et ses ecchymoses sont jaunissantes. Sauf celle plus récente qu'elle porte au poignet droit, qui est circulaire et violette. Il me semble qu'on a serré son poignet avec une force excessive. C'est de plus en plus inquiétant. Je me demande quelle expérience précoce a inspiré à Sileki l'expression « sale alcool ». À ce propos, j'ai participé à une dégustation de la dernière cuvée de Merlot de Chiesi. Ce merlot est brillant, limpide et d'une belle robe cerise. Mais son nez, malgré l'enthousiasme de la viticultrice qui ne jure que par le fruité et le floral, est aigrelet. En bouche, il ne vaut pas mieux. De plus, sa texture est râpeuse. Je n'ai pas détecté de toxicité hors celle de l'alcool, ce qui m'a permis de féliciter mon hôtesse avec un accent de sincérité. La qualité d'invité exige un peu d'hypocrisie. Je crois que je pourrais compter sur mes doigts les fois où j'ai pu exprimer ma pensée par ma bouche devant un sous-lunaire, sans le voir se fermer comme une fleur au couchant. J'ai acquis depuis longtemps des réflexes sociaux, mais leur mécanique était obscure pour moi. Et je ne me fatiguais pas beaucoup pour trouver la lumière. Depuis peu, mes lectures me permettent de mieux discerner les engrenages internes, ténus et complexes de la pensée humaine. Sileki avait ce matin un air de triomphe rentré inhabituel. Elle m'a entraînée vers son pot de frésia, une malheureuse créature victime d'un humus trop lourd sur un corme mal divisé. Nous avions au moins allégé l'humus. Depuis, le frésia a repris bonne mine, ses boutons s'alignent comme des notes sur une portée verte. Le premier d'entre eux entr'ouvrait sa paupière mauve.
« Kupuma, sang !»
m'a dit Sileki. Je me suis penchée. L'odeur acidulée était légère, mais elle était là. Le visage de Sileki rayonnait.
« C'est le parfum de maman,
m'a-t-elle expliqué. Ta mère sentait le freesia? Sileki a haussé les épaules.
Maman n'était pas une fleur, c'était une dame. Elle sentait la dame.
J'ai attendu la suite.
Mais c'est elle qui m'envoie ce parfum, j'en suis sûre, parce que c'est elle qui a planté ce freesia.
Nous sommes restés là autant qu'elle l'a voulu, côte à côte sur sa natte, à respirer l'odeur infime du freesia. Puis je suis allée à la pédagogie déposer le dossier de candidature à un poste d'apprenti horticultrice au nom de Sileki. À la surface, le jour vient de se lever. 20e jour du 2e mois de l'an 2325, cité de Mut. Sileki me suit fidèlement. Quand je surpasse ses forces sans le vouloir, comme elle est toute petite, elle n'en a pas beaucoup, elle s'endort sur place avec naturel. Ce n'est rien de la rapporter à son père. Elle est très légère. Bien que Sileki soit souvent grave, sa présence me semble lumineuse. Je réfléchis beaucoup à ce paradoxe. Il tient probablement au grain serré de sa peau. D'après les citadins sous-lunaires qui la fréquentent, Sileki est ce qu'ils appellent fêlée. Mais de la part de personnalités globalement instables, c'est Uranus qui se moque des gaz de Neptune. Je suppose que, si Sileki était adulte, on se contenterait de la qualifier d'excentrique. Elle a en tout cas une belle coordination motrice. Je lui ai fait greffer en fente un cerisier tout jeune. Elle a ajusté les cambiums avec précision. Je l'ai félicité. C'est une belle greffe, ça.
Arrête de me parler comme à un bébé qui a réussi à remplir son pot.
À défaut de bonne humeur, je crois qu'elle reprend du caractère. Je lui ai ensuite expliqué la greffe en écusson. Elle s'est endormie à la troisième phrase. Je reconnais qu'il était bien vu de me demander d'éviter les termes techniques dans mes rapports. Je suis allée avec elle faire ma visite habituelle au centre gustatif. Il m'a toujours semblé important de savoir ce que deviennent les récoltes de la ferme Lalande. Après tout, le but premier de mon travail est le gosier des sous-lunaires. Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet. Dekoda est un génie culinaire. Ce qui est assez étonnant quand on sait que, au départ, il avait simplement en charge le contrôle des protéomes végétaux. Mais les glissements du goût sur la lune l'ont contraint à s'adapter. On ne peut exiger d'une carotte qu'elle ne réagisse pas au stress lunaire, ni d'un sous-lunaire qu'il apprécie les mêmes plats que ses ancêtres. Il paraît que sur Terre, la carotte sortait ferme, orange et sucrée. Ce simple exemple permet de mesurer le travail accompli par Dekoda. Ayant absorbé tout ce qui était possible de l'enseignement des plus grands gastronomes et l'ayant fait passer dans le tamis lunaire, Dekoda a franchi un seuil derrière lequel il se tient seul. Il sait exactement quelles denrées sont disponibles à quel moment sur les marchés de Mut et d'ailleurs. Il sait parfaitement comment les préparer en allant au plus simple, au plus rapide et au plus délicieux. Ses conseils sont suivis religieusement par toute la cité de Mut et au-delà. Je sais qu'on parle de ses vols au vent jusque dans le grand large. Sortant de ses mains, la moindre omelette est d'un fondant merveilleux. Les boulettes sont dorées, même si on n'y trouve ni viande ni graisse. Les sushis sont exquis, sans poisson d'aucune sorte. Les galettes de fourrage luisent de qualité nutritive. Dekoda ne montre aucune sensibilité aux hommages. Il oppose à toutes les félicitations un front d'airain qui dissimule mal son impatience de retourner à ses fourneaux au lieu d'écouter des sornettes. Comme j'étais chez lui, j'ai pu goûter les nouveaux croquets antihistaminiques destinés aux mulots. Les déguiser avec de la banane ne trompera personne, je le prédis. Les mulots vont encore refuser de les manger et se livrer à une bataille de nourriture dans un concert de rire en ultrason. Ce sera un beau gâchis de calories. Mais Zant estime que la santé de la population de mulots mérite qu'on essaye encore de lui faire avaler des compléments antihistaminiques. Et Dekoda assure, formule chimique à l'appui, que le test sera un succès. Je ne peux que m'incliner devant son génie. Et puis, après tout, rire est bon pour la santé, y compris chez les mulots. Sileki a aussi goûté les croquets. Elle n'a pas recraché, ni même grimacé. Et elle a complimenté Dekoda sur l'équilibre nutritionnel de ses croquets avec un tact rare. C'est vraiment une compagnie appréciable. En sortant de chez Dekoda, nous avons croisé un convoi funéraire.
il devient difficile de les éviter. Pour la première fois, Siliki m'a parlé de la fièvre aspic. Et pour une fois, c'est elle qui a engagé la conversation.
Pourquoi on ne la soigne pas, cette fièvre ?
On essaie, on cherche le remède, mais on ne le trouve pas.
Oh, Scat, quand on cherche, on trouve. C'est ce que dit toujours ma mère.
J'ai tenté d'attaquer les abords difficiles de la médecine par une allégorie. Quand on cherche des gants en crochet qu'on a égarés dans une maison, on les retrouve. Mais quand on cherche des gants en crochet dans toute la galaxie, ça prend très, très longtemps pour les trouver.
Arrête de me parler comme un bébé, je t'ai dit.
Et toi, arrête de dire Oscat. Tu n'es pas censé connaître ce mot. Elle a bougonné.
Une maladie, c'est dans un corps. Ce n'est pas grand comme une galaxie, un corps. Si on cherchait vraiment...
Ça dépend de la taille des gants par rapport au corps. Ceux-ci sont extrêmement petits. Je l'ai laissé méditant sur l'échelle du réel, posé comme un lapin entre les deux gouffres jumeaux de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. 22e jour du deuxième mois de l'an 2325, cité de Mut. Ce soir, en allant chercher Siliki pour le repiquage des poireaux, j'ai remarqué sur son visage une nouvelle ecchymose. Elle est en plein front cette fois, et en forme de coin. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Je préférerais que tu ne me répondes pas « Mm-hmm. »
Rien.
C'est factuellement impossible. Siliki a poussé un fort soupir.
Quand je dis rien, ça veut dire « je ne dirai rien ».
Cet enfant est comme Trim. Elle a la patience de combler mes lacunes relationnelles, mais pas celle de cacher que ça l'agace. Considérant l'impact, j'en ai conclu que Siliki avait été la cible d'un objet anguleux. Il s'agit peut-être d'un de ces dés de bois avec lesquels les enfants jouent au Kika. L'agression aurait donc eu lieu dans le cadre scolaire. À moins que ce ne soit son père le responsable. Après tout, Siliki a sûrement une boîte de Kika chez elle. Il semble que nous n'avons pas tous les mêmes yeux. Là où je vois chez Siliki une intelligence aux aguets, capable de réussir du premier coup une greffe en fente sur un fruitier à noyaux, d'autres ne doivent voir qu'un faible potentiel musculaire et une grande maladresse relationnelle. Siliki disait ne pas accorder d'importance à sa blessure. Cependant, contrairement à son habitude, elle a effectué le repiquage tout de travers. J'ai donc jugé prudent d'intervenir, en appliquant quelques fondamentaux anthropologiques. Le lendemain, je me suis rendue à son école. Je suis arrivée un peu en avance. J'avais une faux que je faisais miroiter dans la lumière. Dès qu'elle est sortie, j'ai pris Siliki par la main et j'ai regardé autour de moi avec hauteur. Je craignais d'entendre des rires. Je redoutais que le public présent se moque de ce que je voulais incarner. Une forme d'étrangeté dans l'ombre de laquelle Siliki pourrait se réfugier. Je sais que je n'inspire pas le respect, mais j'inquiète. Je suis haute, massive, et surtout je symbolise le froid mortel de la surface. La faux aussi a joué son rôle. Je n'ai pas entendu un seul ricanement. Les enfants et leurs accompagnateurs se sont vite dispersés. Siliki et moi avons quitté la place en dernier.
On les a bien eus, ces salopards !
A-t-elle conclu avec solennité. Ce qui a abouti à une nouvelle discussion concernant la richesse de son vocabulaire. Quand elle sera mon apprentie, il me sera plus facile de la protéger. Je n'aurai plus à me livrer à de pareilles mises en scène. Nous sommes ensuite allés cueillir les feuilles d'une goufla en trop grande forme, qui avait décidé de coloniser une arrivée d'air. Le vent secouait les clochettes blanches, se chargeait d'un parfum d'agrumes et emmêlait les cheveux de la petite. J'ai dû les peigner et les tresser tandis qu'elle essayait de fabriquer un petit panier avec des feuilles. Le soir portait quelque chose de gai et de léger. Siliki est rentrée chez elle plus détendue qu'hier. Elle a moins de raideur musculaire et ses yeux sont toujours limpides. À la ferme, le printemps perce. Il va être temps que je remonte. J'attends, ou plutôt j'espère, que Zant va réussir à sauver la mise de Trim en obtenant un non-lieu dans l'affaire du meurtre de la couleuvre. Mais ça ne vient pas vite. J'ai pourtant rempli ma part du marché en effectuant toutes les visites qu'on m'a demandées. 24e jour du deuxième mois de l'an 2325, cité de Mut. L'état de santé de Siliki n'est pas le seul sur lequel je veille à Mut.
Quand je suis à Mute, un grand nombre de citadins sous-lunaires viennent me poser des questions qui ne sont pas d'ordre végétal, mais médical. C'est vrai, les plus anciens remèdes ont été tirés des plantes. Mais il y a longtemps que les principes actifs sont synthétisés artificiellement. Cette considération n'arrête pas mes patients. Ils exigent des tisanes et des cataplasmes naturels, c'est-à-dire que le végétal doit être reconnaissable à l'œil nu. Je suppose qu'ils attendent de ces traitements un puissant effet placebo, et ils n'ont pas tort. Les traitements qu'ils me réclament le plus souvent sont des eaux, eau de soleil et eau de terre. Il suffit de laisser un réservoir d'eau une heure en plein jour solaire ou la nuit sous un clair de pleine terre pour que mes patients soient satisfaits. Ils avalent ça avec gourmandise, fermant les yeux comme s'ils buvaient vraiment une lumière liquide. Je regrette de ne pas voir la bulle de rêve dans laquelle ils vivent. C'est une bulle emplie de pensées magiques, bien sûr. Je connais la notion de pensée magique. Mais je n'avais pas jusque-là fait le lien avec la pensée poétique, faute de culture littéraire. J'ai compris que, pour celles et ceux qui en boivent, mes eaux ont gardé la trace de l'éblouissant feu solaire ou de la tendre clarté terrestre. Ils rêvent qu'un lien serpente entre ces forces-là, ces beautés-là plutôt, et leur organisme. Ils espèrent absorber avec ces eaux un peu de la tendresse de la planète mère ou de la force de leur étoile. C'est une façon symbolique d'approcher cet astre qu'ils ne peuvent ni regarder en face, ni trop fréquenter à cause de ses radiations impitoyables. Dans leur esprit, l'eau filtre la puissance tonitruante du soleil. Elle l'adoucit, l'apprivoise et la transmet en gorgées bienfaisantes. Mes eaux de surface ont un grand succès. Je retrouve ces mêmes liaisons poétiques dans les tisanes qu'on me réclame. Le visage clair de la camomille permet aux citadins sous-lunaires de lutter contre les angoisses. Le cassis rond et ferme est efficace contre les douleurs de leurs articulations trop étirées, et le sec pissenlit contre les œdèmes. Je ne propose rien contre la fièvre aspique, bien sûr, malgré toutes les demandes. Ce serait cruel. Je fournis ce que je peux à mes patients. Eau, infusion et fumigation. L'important n'est pas là. L'important est dans le sirop de mots que je leur offre. Quand il ne me reste plus un pétale ni une feuille, je leur propose du miel en leur parlant des abeilles, du pollen, des ruches et, enfin, des bienfaits d'une vraie consultation de santé, sans succès pour cette dernière. Je n'obtiens que des grimaces. Je me suis fait la réflexion que, si les citadins sous-lunaires craignent la liberté et ses hésitations, s'ils recherchent l'autorité, s'ils votent pour elle, dès qu'elle est élue, ils n'ont rien de plus pressé que de la critiquer et de l'esquiver. L'autorité médicale ne fait pas exception. Des millénaires de trahison expliquent ce comportement en zigzag. Je rappelle que je n'ai aucune notion médicale. Ce n'est pas mon métier. D'un autre côté, je ne crois pas qu'un vrai médecin ait le temps de donner à une âme inquiète la ration de poésie dont elle a besoin. Un bot médical non plus. Quoi qu'il en soit, si je continue à accepter ces rendez-vous, c'est que je considère qu'il n'y a rien de plus intelligent que de solliciter de l'aide quand on en a besoin. Et que je dois la donner aux citadins quand ils me la demandent. Avant tout, je suis au service des sous-lunaires. 26e jour du deuxième mois de l'an 2325, cité de Mute. Si l'Eki n'a pas, pour l'instant, rapporté d'autres échymoses de l'école. Je crois que mon action avec la faux n'a pas mal réussi. Avec des soins adaptés, cet enfant poussera bien et développera ses compétences horticoles. Si la fièvre aspique le permet, comme on dit ici. Je me vois dans ce processus de maturation comme un tuteur. Et je me demande si Sileki n'a pas exactement la même impression. Je veux dire, l'impression de me tutorer. Par exemple, si je décrase grossièrement un plantoir, Sileki s'en empare et le frotte jusqu'à ce qu'il brille. Je vais l'utiliser à nouveau dans 5 minutes, tu sais.
Mon derrière aussi, je m'en sers souvent, mais je le nettoie à chaque fois.
Si l'équipe passe derrière moi pour améliorer à sa façon le fagotage des mauvaises herbes et les semis à la volée. Elle est bienveillante à mon égard, et même indulgente, puisqu'elle se contente de corriger mes actes sans jamais me faire une remarque. Quand nous arrivons près d'une fontaine, si l'équipe y trempe son mouchoir et me le tend. Je la regarde. De son petit index tendu, elle montre mon nez ou ma joue. J'en déduis que j'ai une tache de boue qu'il faut nettoyer.
puis Siliki va rincer le mouchoir, ce qui n'est pas très bon pour la qualité de l'eau de la fontaine. Mais je ne lui fais, à mon tour, aucune remarque, même si la pédagogie estime qu'il n'est pas poli de montrer du doigt. Je crois que Siliki juge que je suis un peu fêlée. Il est possible qu'elle me renvoie, comme une balle, la mauvaise opinion qu'on a d'elle pour s'en débarrasser. Elle estime sûrement que l'impact sera moindre sur moi que sur elle, et elle ne se trompe pas. Peut-être aussi qu'elle se dit que j'ai de la chance d'avoir trouvé quelqu'un comme elle, quelqu'un qui m'accompagne et m'épaule, comme une abeille ouvrière flattant les mandibules de sa reine. Et c'est ainsi que nous nous promenons dans Mut, avec nos outils de jardinage, la reine des abeilles et sa petite ouvrière aux jambes véloces, un mouchoir mouillé à la main. De temps en temps, nos pas nous conduisent près d'un hôpital. Je n'y ai pas ma place. Tout ce qui est agricole est banni des protocoles médicaux. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que, justement, il y a sur mon chemin toujours plus de ces lieux où je ne suis pas la bienvenue. La fièvre aspic frappant sans relâche, les hôpitaux centraux sont saturés. Le comité de santé de Mut s'est décidé à multiplier les annexes jusqu'au 500e mètre de la cité. On les reconnaît à leur grand drapeau vert et à l'odeur de désinfectant qui sort en bouffée froide chaque fois que coulissent les portes. On dirait la mauvaise haleine de la mort. De longues familles de citadins sous lunaire en émergent à pas lents, vêtus de rouge ou de blanc, ou de jaune, car le deuil change de couleur avec les cultures. Les pleurs mêmes sont typés. Ils vont des cris les plus aigus à des gémissements étouffés qui ressemblent aux plaintes des chèvres pleurant l'une des leurs. Certains rient et chantent, des larmes plein la voix. Je salue ces processions selon le rite que je crois reconnaître, sauf quand je suis avec Siliki. Dans ce cas, je m'éloigne rapidement de ces défilés de désastres qui risqueraient de l'attrister. Dernièrement, Siliki s'est mise à parler davantage, mais elle parle aux insectes et aux plantes. Elle émet des onomatopées, des sifflements, des trilles, puis elle vient m'expliquer les états d'âme des scarabées et des renoncules. Elle me dit ce que les fleurs désirent et ce qui leur manque, à quoi les moucherons pensent. « Et cette tulipe, que dit-elle ?»«
Oh, elle boude !»«
Elle boude ?»«
Elle se trouve trop jaune. » »«
De fait, elle est jaune. » »«
C'est ce qu'elle dit !»
Soupir excédé.
« Elle se trouve jaune, jaune, terriblement jaune. Laisse-moi la consoler. »
En prétendant parler à toute la biosphère, Siliki se flatte sûrement un peu. Mais les plantes ayant de multiples capteurs, un peu de bienveillance ne peut pas leur nuire. Je reste songeuse en regardant cet enfant faire tomber à elle seule le mur d'Aristote. Il me semble que j'ai donné un tour un peu trop sec à mon enseignement d'herboriste. Je vais faire l'effort d'entrer dans la pensée poétique de cet enfant, dans la bulle de rêve où elle vit, si je peux. 29e jour du deuxième mois de l'an 2325, cité de Mut. Ce matin, j'ai montré à Siliki comment transformer une herbe en sifflet. Je lui ai aussi enseigné la formule pour déplier les antennes des escargots. C'est une comptine assez longue, qui parie sur le fait que, pendant qu'il est occupé à chanter, l'enfant n'effraie pas la bestiole en tapotant sa coquille. Siliki l'a très vite su par cœur.
Au douzième coup de cloche, l'escargot s'étira.
Je lui ai appris à trouver les trèfles à quatre feuilles, mais elle refuse de les cueillir, ce qui est d'une bonne nature. Je lui ai parlé des poissons en faisant des arêtes avec des feuilles de marronnier. Je lui ai raconté les légendes sur les crevettes de buisson et les arbres en cristal au fond des lacs. Elle y a cru.
Et les fruits en cristal, ils tombent ou ils remontent à la surface?
Je lui ai montré comment égrener la folle avoine et souffler les pissenlits. Elle a beaucoup éternué. Un rossignol s'est mis à chanter au-dessus de nous. Siliki a tendu la main et a soufflé.
Pidincita, je le tiens! Tu le vois? Je le tiens bien!
Mais il n'y avait rien entre son pouce et son index serré, et je crois qu'elle parlait du chant. Qu'elle voyait vraiment une fine ligne sonore captive au bout de ses doigts, tremblante et musicale. À la suite de cet incident, je me suis intéressée aux liens que les artistes ont noués entre les différents sens. J'étudie la pétillante odeur des jonquilles et le parfum d'or pâle du chèvrefeuille. J'analyse la faculté qui permet de tresser ensemble les sons et les senteurs, de trouver une texture à une couleur et, finalement, une silhouette à un sentiment. Je me demande ce qui m'y a conduite, si c'est la compagnie de Siliki, le souvenir de Madame Gonzerster ou le flot de textes que j'ai ingurgité. Les trois, sûrement. Je viens d'apprendre que le père de Siléki va la confier à l'orphelinat Jus, un établissement fermé. Il ne sera plus question pour moi de voir Siléki, ni de lui enseigner quoi que ce soit. Je ne pourrai plus veiller à ce qu'on ne lui fasse pas de mal. Je n'ai pas de compétences pédagogiques reconnues, mais il y a, entre elle et moi, un lien qu'il est regrettable de trancher si brusquement. Je me permets de le signaler. Je rappelle que j'ai recensé sur son corps pas moins de 6 ecchymoses visibles. Elles peuvent correspondre dans l'ordre à des coups de règle sur les mains, des jets d'objets dans la figure et des prises violentes sur les avant-bras. Les premières peuvent être le fait de ses enseignants, les deuxièmes de ses compagnons d'école et les dernières d'un père dépassé par ses obligations parentales. Ça ne laisse à Siléki aucun espace dans lequel elle peut évoluer en sécurité physique et mentale, à part celui que je lui offre pendant nos parties d'herborisation. Qu'un organisme si frêle animé d'un esprit si sensible soit en butte à des violences continuelles est un scandale moral que je tiens à signaler avec force. Après tant de services rendus à la communauté de Mut, j'ai enfin obtenu le non-lieu de Trim dans cette affaire de couleuvre. Il ne finira pas les griffes rognées dans un des vivariums de Zant le zoologue, quelque part à Mut, loin de la surface et de la ferme Lalande. Il est d'ailleurs grand temps que je remonte prendre soin de lui. Bien sûr, ce chat peut se passer de moi. Il dispose de 3 robots pour ses soins courants. Je lui ai même bricolé un mini-gratteur pour aérer sa fourrure sous le menton comme il le réclame en permanence. J'ai longtemps cru que cette bête avait une forme de gale. Je crois comprendre maintenant qu'il s'agit de sensorialité et même de cette aptitude à la sensorialité qu'on nomme sensualité. Mais malgré toutes ces précautions, si je reste trop longtemps loin de Trim, il perd 5% de son poids. À mon retour, son anorexie ne s'améliore que lentement. Et il a un comportement anormal. Il régresse. Il est même allé jusqu'à déterrer des bulbes de jacinthe et uriner dessus. Et puis, c'est mon devoir de veiller sur le printemps de la ferme. Aussi, je ne vais plus prolonger mon séjour dans la cité de Mut. J'ai fait mes adieux à Siléki.
Pourquoi tu t'en vas ?
M'a-t-elle demandé en bougonnant. Parce que je dois m'occuper de la ferme là-haut.
Pourquoi je ne peux pas venir avec toi ?
Parce que c'est dangereux pour toi de venir trop souvent à la surface, à cause des vents solaires.
Si c'est dangereux, reste ici.
Ce n'est pas utile, puisque tu vas à l'orphelinat Jus et que nous ne nous verrons plus de toute façon.
Mais juste un petit moment.
Elle m'a regardé avec espoir. Ton père en a décidé autrement. Ton père a toute autorité sur les choix qui te concernent. Sa décision est que tu ailles à l'orphelinat Jus dès demain.
Mais je veux pas aller dans ce sale orphelinat. C'est plein d'enfants sans parents et ça les rend méchants.
Elle s'est mise à bredouiller qu'elle avait encore des parents, elle. Puis elle a commencé à vociférer des choses indistinctes et elle m'a donné un coup de pied dans le genou. Je m'étais accroupie devant elle. Enfin, elle est partie se réfugier dans la maison de son père. J'ai attendu un moment au cas où elle serait ressortie pour courir je ne sais où et je suis allée prendre l'ascenseur pour la surface. J'essaierai autant que possible d'avoir de ses nouvelles. Ses yeux sont toujours limpides, mais une légère raideur musculaire persiste. À la surface, la nuit va bientôt tomber à nouveau. La côte 237 pose, je le rappelle, un problème majeur. La fissure paraît stabilisée sous son confinement, mais chaque lever et coucher de soleil entraîne un tremblement de lune qui peut se révéler catastrophique sur une structure affaiblie.